silence au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître et Orbi comme Orbi, ça n'a pas changé, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. Et bien on est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle d'Alexandre Pierrepont, qui a commis la nuée, ou l'AACM, un jeu de société musicale aux éditions Parenthèse, c'est ça?
Oui, c'est ça.
On va y plonger. Hein. Dans tout ça, on a plein de choses à se dire quand même, un peu parallèle, un peu en profiter, on a une heure et demie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Une triste nouvelle quand même, c'est un ami à nous, René Haddad, qui venait ici lire des pages et des pages, et dont Monique m'a dit il y a quelques temps, il est adorable, avec une voix fantastique, je crois qu'on peut confirmer, Monique, bien sûr.
Absolument.
Il venait ici, il a été comptable toute son existence, une fois à la retraite, il a actualisé un rêve, c'est faire du théâtre. On l'a beaucoup fait souffrir ici pour la revue Empreinte, je sais pas, cette revue que tu connais avec Claude Brabant. Il venait lire des pages et des pages entières, comme ça, c'est adorable, une voix magnifique. Et puis on lui a ouvert le crâne, on a trouvé de l'eau, il est mort. Donc on n'a pas envie de rien dire, c'est comme ça. Allez René, on va y passer à autre chose. Donc Alexandre Pierrepont, c'est la première émission que je fais, le micro que je reprends depuis les événements. Est-ce que tu as un commentaire intelligent à faire ou pas? Vu que j'ai même trouvé sur ma toile, moi, quelqu'un qui m'a lancé la phrase d'André Breton, le premier acte surréaliste, c'est descendre dans la rue avec un revolver et tirer sur la foule. Alors je sais pas si tu veux quelque chose d'intelligent à dire ou voilà.
Par rapport à ce commentaire, non. Ça nous amènerait trop loin et voilà. Ceux qui n'ont pas envie de comprendre n'ont de toute façon pas envie de comprendre, donc on va pas insister. Non, j'aimerais juste dire, avant qu'on aborde d'autres sujets, encore que. Moi, il y a une chose qui m'agace terriblement depuis le vendredi 13, c'est la surabondance de termes comme barbare, monstre et autres. Voilà. J'ai juste envie de dire que les êtres humains qui ont fait ça sont des êtres humains. Qu'ils ont commis des actes atroces, monstrueux, si l'on veut, mais ce ne sont pas des monstres. Ce sont des produits de notre histoire coloniale et du capitalisme sauvage à travers le monde, qui trouvent refuge dans l'aberration pour s'affirmer, et en fonction d'une foi qui est la leur. Voilà. Donc, condamner ces actes, évidemment, encore que ça sert à quoi de le dire et de le répéter sans cesse, et de les qualifier d'abominables volontiers. Voilà. Mais j'aimerais qu'on cesse de les qualifier, eux, les êtres humains qui ont commis ces actes atroces, de monstres ou de barbares. Mmh. Surtout barbares, d'ailleurs.
De toute façon, au niveau du capitalisme et des actes barbares du capitalisme, on a le napalm, on a la bombe atomique. Non, mais la bombe atomique, Hiroshima, la fameuse phrase qu'on a attribuée à Adorno, savoir si on peut encore faire de la littérature après Hiroshima, on peut se la poser.
Oui.
Ou la musique, ou du jazz après Hiroshima, ou après les événements.
Voilà, je pense que de toute façon, l'essentiel c'est de se poser cette question-là. Chacun y répondra comme il ou elle veut. Ce serait pas mal d'ailleurs que des gens se taisent aussi parfois, c'est l'inverse de ce que je fais présentement. D'assister à différentes sortes de réactions. Quand je parle de se taire, pas forcément d'ailleurs les gens qu'on qualifie d'artistes, je pense peut-être plutôt politiciens. Enfin bref, ils connaissent le langage des bombes. Il peut y avoir tout type de réaction, en tout cas la question se pose. La réponse, je ne la connais pas et personne ne peut la connaître, mais on doit fréquenter la question.
Personne ne la connaît, la réponse, c'est le problème.
Non, voilà. Mais on doit fréquenter la question. Je crois que je le dirais comme ça. Il y a une fréquentation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout de suite. Moi, je trouve parfois qu'en dehors, évidemment du traumatisme, pour employer encore une fois tous les mots-clés que l'on sort dans ces cas-là, ressenti par les uns et par les autres, la rapidité avec laquelle un certain nombre de gens sont prêts à répondre et ont déjà la grille de lecture fin prête pour expliquer, analyser, résoudre et passer à la suite, ça me semble assez prodigieux.
Je crois que tu es d'accord avec moi, on sera tous d'accord pour dire que après Hiroshima, il faut écrire, faire de la musique, il faut continuer absolument. Mais il y a quand même une nouvelle donne.
Voilà.
Et peut-être la nouvelle donne, peut-être la donne de l'incompréhension. C'est-à-dire nos intellectuels officiels ne disent pas grand-chose.
Ouais, voilà, ça fait longtemps que cette catégorie-là. On n'est plus à l'époque des Jean Giono, des André Gide, des compagnies. Pour ne parler que de la France, il y a les mêmes dans les autres pays européens ou ailleurs. Ça fait même... à la limite, c'est peut-être un lien, mais on en parlera tout à l'heure avec mon livre et les musiciens dont je parle, parce qu'ils occupent finalement un créneau, les 50 dernières années, 1965-2015, hein, ils occupent un créneau qui, pour moi, correspond à peu près au moment où, non pas les intellectuels ont démissionné, on connaît tous des poètes prodigieux, des écrivains prodigieux, des peintres prodigieux, et des musiciens donc prodigieux, donc ils n'ont pas disparu. Maintenant, ils n'ont plus pignon sur rue, à très rares exceptions près. À leur place, et ça a toujours existé, sauf qu'ils étaient moins proéminents, on va dire, avant 1965 ou 1970, peu importe, il n'y a pas vraiment d'année charnière, mais ils étaient plus en retrait, ils étaient tenus en respect par des gens un peu plus qualifiés. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se passe, et voilà, moi je sais que j'étais aux États-Unis quand les événements se sont produits, la première personne que j'ai vue à l'antenne de CNN, c'était Bernard-Henri Lévy, en va-t-en-guerre, comme il se doit.
Jeudi et vendredi, je suis intervenu pour le 50e anniversaire de la mort de Roger Vaillant. Je sais pas si tu imagines qu'actuellement, les éditeurs officiels de Roger Vaillant vendent 30 exemplaires par an de Roger Vaillant. Je sais pas si tu vois, par rapport à un tirage de je sais plus comment il s'appelle, Lévy, un autre Lévy. Comment il s'appelle, le Lévy
L'autre Fédé Calcrotte
qui... Non, le Lévy qui vendait
Houellebecq.
Oui, ces gens-là, 30 exemplaires. Ouais. Je ne sais pas si tu vois un petit peu à quoi ça correspond. Non, c'est terrifiant. Par contre, est-ce que tu connais la ville de Mons? Tiens, toi, tu es un grand voyageur.
Un peu, vaguement, je n'y ai jamais mis les pieds.
Ah, tu n'as jamais mis les pieds? Ville frontière, très dure, une immense prison légendaire, des armureries. Énormément d'armurerie, et c'est là que Verlaine a tiré sur Rimbaud. Rimbaud est blessé légèrement à la main, et tu connais aussi bien. Tu vas voir où je vais en arriver, c'est où je vais en arriver quelque part de très précis. Rimbaud est blessé à la main, tu connais, bon, ils sont amants, c'est comme ça. Tu connais aussi l'influence et l'aspiration que l'Afrique a sur Rimbaud, sur la corne de l'Afrique. Qui est là. Bon. Et là, actuellement, il y a une très belle exposition qui est faite sur le parcours de Verlaine à Mons. On a même retrouvé le pistolet sur lequel il a tiré. Je vais te lire de trois petits passages. Le catalogue est très, très bien fait. Et si tu veux bien, en tant qu'ethnologue, voilà, je suis arrivé là, en tant qu'anthropologue, on va s'arrêter sur quelque chose. D'accord ? Voilà. Et après, promis, on va faire la nuée sans aucun problème. Alors, tu connais la fameuse toile de Fantin-Latour, coin de table, le 2 mars 1872, lors d'un dîner des vilains bonhommes, Rimbaud, ivre, ponctue les lectures de poèmes par de virulents. Merde, c'est de la merde. Le photographe Carja veut calmer le jeune perturbateur. S'ensuit une altercation entre les deux hommes. Rimbaud se saisit d'une cadette épée et blesse Carja. Cet incident, sans conséquence, fait grand bruit. Albert Mera, devant figurer sur le coin de table, refuse de se faire représenter à côté d'un assassin. Fantin-Latour le remplacera par un bouquet de fleurs. Voilà. Ça, c'est magnifique. Donc, ce catalogue est très, très bien fait. Deuxième voilà. Manuscrit de chair et dans les limbes par Paul Verlaine, c'est la fin de sa vie. Hein. Au début, dans les années 1990, Verlaine vit entre deux de ses maîtresses et les hôpitaux. C'est d'ailleurs sur du papier de l'assistance publique qu'il rédige dans les limbes en 1992. Ce recueil, très chaste dans l'apaisement du soir, est dédié à Philomène Boudin. Magnifique, ça s'appelait Philomène Boudin. Voilà, voilà. Le manuscrit de chair, sans doute la copie destinée à l'impression, est rédigé sur du papier de provenance et de formats divers, Verlaine utilisant tout ce qu'il trouvait pour écrire. Composé pour Philomène Boudin, Eugène Krantz et d'autres femmes anonymes, ses poèmes érotiques chantent la passion amoureuse. C'est splendide, non? Mais Philomène Boudin... Et on en arrive, je voulais arriver, rassure-toi. Voilà, ça c'est toute la cruauté de la vie, en même temps les influences occultes. On va voir comment on va qualifier ça. Alors, le fils de Verlaine, Georges Verlaine. Né en 1871, Georges Verlaine ne verra son père qu'à quelques rares occasions. Il étudie à Paris, puis séjourne en Angleterre, avant de rejoindre sa mère et son beau-père en Algérie. Touchant et triste à la fois, Georges s'essaya à la poésie sans grand succès, mais avec du sentiment, voilà tout. Il deviendra finalement chef de gare au Métropolitain. Il se marie, mais n'aura pas d'enfant. Et c'est là que ça intervient. Énigmatique, il justifie son absence lors des obsèques de son père par une maladie causée par l'influence. Alors, par une maladie causée par l'influence hypnotique d'un individu rencontré en Algérie. Il meurt en 26, accablé par de fréquentes crises d'amnésie. Qu'est-ce que tu en penses? De l'influence, le fils reçoit une influence magnétique
Ah, ça, c'est prodigieux.
Prodigieux.
Non, mais toi, tu penses à quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de l'Afrique du Nord à ce moment-là?
Bien sûr, oui. Énigmatique, il justifie son absence lors des obsèques de son père par une maladie causée par l'influence hypnotique d'un individu rencontré en Algérie.
Est-ce qu'on sait s'il était au courant de la liaison de son père avec Rimbaud?
Voilà. Bien sûr, tu vas arriver. Oui, je pense que oui. Je pense que c'était officiel. Mais je t'ai aimé, c'est parce que toi, c'est au dos de ton livre, là. Alors, Alexandre Pierre Pont, anthropologue, travaillant sur les phénomènes de double conscience. Mmh. Parce qu'on n'est pas là dans le phénomène de double conscience totale.
Alors, mais je découvre l'événement, donc je réagis à chaud. J'étais même pas sûr de savoir que Verlaine avait un fils qui s'appelait Georges.
Je viens de le découvrir aussi.
On se rapproche aussi de quelque chose que Breton appelait les hasards objectifs. C'est-à-dire quand quelque chose de l'ordre de la nécessité extérieure se ferait un chemin dans le désir humain. Alors, cela étant dit, on est dans un billard à trois bandes aussi, là. Mmh. Parce que ça surgit dans la vie du fils de Verlaine et non pas dans l'inconscient de Verlaine. Voilà, c'est ça qui est troublant. Mmh.
On ne pourrait pas dire qu'il est le fils de Verlaine et Rimbaud?
Oui, en plus, né en 1871. Voilà. C'est la date quand tu as précisé ça en plus.
Bien sûr.
Né en 1871, c'est-à-dire qu'ils se sont quittés quand? 70 ou 71?
Oui, c'est ça, on est en plein dans les
eaux.
Voilà. Voilà.
Bon, on imagine Verlaine avec de multiples relations. Certes, on peut tout ça ramener ça assez facilement à la raison, mais malgré tout, les coïncidences sont troublantes, pétrifiantes. J'aimais bien cette expression que Breton utilisait avant de parler de hasard objectif. Mmh. Il parlait de coïncidences pétrifiantes. Voilà, là, c'est un peu, ça, on est un peu là-dedans.
On est dans ça, dans l'occulte entre guillemets, dans la double conscience là.
Alors, non. Si ça pourrait l'être, ça pourrait l'être. Alors évidemment, moi, quand j'utilise, c'est pas moi qui ai forgé ce concept-là. Hein,
il vient de où?
Il vient d'un sociologue afro-américain qui s'appelait W.E.B. Du Bois. Enfin, son nom de famille, c'est Dubois.
Dont on fait les cercueils, disait Corbière. Je sais pas si tu as souvenance de ça.
Et en 1903, alors c'est pas rien cette histoire, parce que donc en 1903, il a vécu très vieux, c'est-à-dire que Dubois, il est mort, il avait presque 100 ans à la fin des années 60, ou au milieu des années 60, il s'était fait faire citoyen africain, je crois, du Ghana, après avoir adhéré au Parti communiste américain, mais il avait commencé comme sociologue, et donc en 1903... Il a écrit quantité d'ouvrages. Il en a écrit un qui s'appelle The Soul of Black Folks, l'âme du peuple noir, dans lequel il parle de la conscience déchirée. Alors là, on est plus dans quelque chose de névrotique, hein, on va dire, des Afro-Américains, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus africains et qu'ils ne le redeviendront jamais, même si lui terminera ses jours en Afrique, et qu'ils ne sont pas encore américains parce que ce sont des citoyens de seconde zone.
Il est originaire de où, lui?
Alors, il est originaire des États-Unis.
C'est ça, d'accord, ok.
Et habitant au nord des États-Unis. Mais il faut s'imaginer le toupet quand même. Hein. 1903, évidemment, on est en pleine Amérique ségrégée. Évidemment, il habite dans les États du Nord. Hein, et il écrit, il publie dans les États du Nord. Mais malgré tout, c'est le premier avec une femme qui s'appelle Zora Neale Hurston, juste dans sa foulée, à prêter attention à la culture afro-américaine. Même s'il est actif aussi sur le plan politique. Et d'ailleurs, dans ce livre de 1903, donc avant l'avènement du jazz au-delà de la Nouvelle-Orléans, hein, à sa disposition, il a certainement les Negro Spirituals, et puis peut-être vaguement quelques blues, mais il parle déjà des Soro Song, il en parle très bien de l'importance de la musique dans la communauté afro-américaine. Bref, en tout cas, pour l'ensemble de cette communauté, il dit, voilà, on est dans une sorte de dédoublement de la conscience. Au départ, il faut l'entendre comme ça. Un dédoublement de la conscience, c'est-à-dire on n'est ni l'un ni l'autre. On n'est ni africain, ni américain. On est perdu, on est le cul entre deux chaises. Mais il faut résoudre cette situation, et le problème du XXe siècle sera le problème de la ligne de couleur.
Mais Breton récupérant ça, c'est pas le même problème. Breton est purement occidental.
Alors, c'est pas le même problème, mais alors là, alors avant qu'on y vienne, là, c'est quand même intéressant, parce que j'ai fait une découverte récemment, je n'ai pas encore écrit dessus, je pense que personne n'a mis le doigt dessus, c'est la première fois à l'antenne de Radio Libertaire, on va faire comme dans les autres radios.
89.4, on attend, oui.
En fait, pour forger, parce que c'était un Afro-Américain éduqué, quand je veux dire par là qu'ils l'étaient tous, évidemment, par la culture populaire, mais lui avait mené des études, etc., avait eu ses diplômes et était sociologue assermenté, va-t-on dire. Donc il avait lu les auteurs, et notamment les classiques, mais aussi les recherches contemporaines en psychologie sociale, y compris venues d'Europe. Et donc W. Du Bois, il faut s'imaginer qu'en 1903, un Breton à ce moment-là, si tu parles de lui, il a 7 ans, hein, avait lu Piaget, Jean Piaget, avait lu l'automatisme psychologique, donc les recherches pré-freudiennes sur l'inconscient, et avait emprunté dans l'automatisme psychologique cette notion, avait forgé, enfin, elle n'est pas mentionnée exactement comme ça, mais de double conscience, et lui, il l'adapte au cas des Afro-Américains, aux problèmes sociaux, économiques, culturels et psychologiques, qui seront développés plus tard par Fanon, hein, c'est, on va dire, c'est l'ancêtre de Fanon Dubois, et donc il identifie cette double conscience. Alors je reviens tout de suite, je fais un détour, si tu me permets. La notion ne va pas passer inaperçue, mais elle va connaître une seconde jeunesse. Alors je fais un détour et une grande avance rapide. À la fin du XXe siècle, il y a un autre sociologue afro-américain, mais de la fin du XXe siècle, hein, qui, en 1993, 90 ans après la parution du livre de Dubois, donc il s'agit de Paul Gilroy, qui est toujours en vie, qui est dans les cultural studies, post-colonial studies, enfin peu importe, qui reprend cette notion de double conscience, toujours intrinsèquement, c'est-à-dire par rapport à l'histoire, et puis un siècle d'histoire supplémentaire et de combat, les droits civiques, le black power et tout ça, et dit mais finalement, ce que Dubois avait analysé au début du siècle comme un problème, comme une déchirure névrotique, c'est peut-être une force au bout du compte. C'est-à-dire que nous ne sommes ni africains ni américains, mais peut-être que nous sommes et africain et américain, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fini par dire afro-américain. C'est-à-dire que cette situation qui au départ aurait pu être de l'ordre du déchirement, elle est finalement peut-être source d'équilibre, et surtout dans un monde qui se mondialise. Et il a ça en tête, il n'a pas simplement les problèmes internes aux afro-américains ou dans leur rapport avec la société américaine, mais avec le monde tel qu'il va aujourd'hui. C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt développer des identités multiples, et ce sera la meilleure réponse à toutes les dérives identitaires, nationalistes, religieuses et autres qu'on connaît.
On va y revenir, parce que c'est quand même un des points de ton livre. Non ?
Tout à fait.
C'est une déclée de ton livre,
j'ai bien lu. Tout à fait.
Mais je voudrais tester si vraiment tu es un connaisseur de jazz ou pas. On va voir. Est-ce que tu connais Joe Albany ?
Mal, oui, je connais.
Ah, tu le connais. Alors, je te conseille ce livre aux éditions de Nouvelle Attila. C'est sa fille, Ami Jo Albany, qui raconte sa vie avec son père, la relation avec son père, musicien blanc.
Oui.
Musicien blanc, très important. Et on est en plein dans le sujet, parce qu'en te lisant, ça m'a fait penser à des choses, à des questionnements évidents, des évidences que je n'avais jamais retournées. Donc, on va le faire ensemble au micro de Radio Libertaire.
Avec
ça te va?
Oui,
mais avant, Monique, si tu veux. Hein, vous ne dites pas le titre, ne dites rien, Monique. D'accord, merci.
A brown and yellow basket. I send a letter to my mommy. On the way I dropped it, I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. A tasket, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be.
So do we, so do we, so do we, so do we, so do we.
Oh gee, I wish that little girl I could see.
So do we, so do we, so do we, so do we.
I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
No, 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 no.
Was it blue?
No, 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 no. Just a little. little yellow basket.
Oh, Monique, non, non, ne dites rien, Monique, reposez-vous. Et là, Fitzgerald, magnifique, on est avec Alexandre Pierrepont sur Radio Libertaire, la nuée, la, la, CM, on va voir ce que ça signifie, un jeu de société musicale aux éditions Parenthèse. Oui, alors moi, je lis ce livre sous un œil ethnologue, anthropologue, et puis il m'arrive des choses qu'il faut se poser la question. Et c'est marrant, c'est la transition avec le livre de la fille de Joe Albany, là, puisque sa mère a été une des amies de Ginsberg. Effectivement, tu as fait allusion au début de ton livre, là, à la Beat Generation. Et je me suis aperçu d'une question que je ne m'étais jamais posée. C'est-à-dire, pourquoi la Beat Generation est blanche ? Ah oui, non, mais ça paraît une évidence comme ça.
Si tu me permets, je vais faire un petit détour. Encore, j'aime bien ça. C'est pour ça que j'aime le jazz, sans doute, c'est qu'on transforme tout. Je crois que j'en parle effectivement dans mon livre, mais peu importe, oublions-le, parce que c'est un problème qui le dépasse. Il y a l'ouvrage d'un sociologue fameux, même traduit en français, américain, toujours vivant, assez âgé, qui s'appelle Howard Baker, et dont le titre en français, je crois, c'est Les Marginaux. Et il analyse comme ça, de chapitre en chapitre, différents types de marginaux dans la société américaine, occidentale, va-t-on dire. Et un chapitre est dédié aux musiciens de jazz, qu'il identifie comme tel. Et je crois que pendant longtemps, déjà à la Nouvelle-Orléans, et donc encore dans les années 50-60, le jazz, comme après lui le rock, mm-hmm. ou comme après le rock le rap, a été perçu par une minorité blanche tapageuse, et on va dire éventuellement marginale, en rupture de banc avec les parents bourgeois éventuellement, parfois aussi sortis de la classe ouvrière hein, dans certains cas, mais qui en tout cas ne se reconnaissaient pas dans les valeurs familiales ou sociales, et qui s'emparent d'une musique noire et de ce qu'ils prennent à bon escient, a priori, hein, pour ce que cette musique et ses manières de faire véhiculent, qui se l'accaparent pour exprimer leur révolte. Mmh. C'est déjà arrivé, l'air de rien, ça fait tellement longtemps qu'on l'a un peu oublié, pour les musiciens blancs de la Nouvelle-Orléans ou pour certains des premiers musiciens de jazz dans les années 10 ou les années 20. Il y a, après la Seconde Guerre mondiale et au moment du bebop, la même chose pour un certain nombre de musiciens blancs canailles. Un peu, il faut voir que les jeunesses de, on parle souvent de la fin de la vie de Chet Baker, hein, mais les jeunesses de Chet Baker ou même de Jerry Mulligan, etc., ne sont pas tout à fait irréprochables, et tant mieux pour eux. Et accompagnés donc par eux, par cette nouvelle génération de poètes américains, donc les Beats, on y arrive, je réponds à ta question. J'ai pas oublié.
Tu me disais enfin, voilà. C'est un grand détour.
Et donc, voilà, eux aussi sont en rupture de banc. Eux aussi essaient d'exprimer une certaine forme de modernité, une certaine forme de refus et de révolte. Et donc, la dernière nouveauté musicale, puisque de toute façon, l'Amérique se définit par sa musique et son cinéma, culturellement parlant, plus que par sa littérature encore à ce moment-là, quelques exceptions près. Donc ils se rapprochent de ces modèles-là, ils les interprètent à leur manière. Hein, ça va être le cut-up, ça va être... ça va être un certain nombre de techniques qu'on connaît tous, et je crois que c'est un malentendu. Mais c'est un malentendu fertile. C'est-à-dire, c'est pas un malentendu que je leur reproche. C'est-à-dire qu'ils vont... je pense que, par exemple, les musiciens afro-américains, ceux que j'étudie, mais même d'autres, et avant la ACM, ils essaient de se forger dans la positivité. Non pas dans l'identification au mainstream de la société américaine, bien sûr. Ils ont un jeu même parfois ambigu, quand c'est pas de refus aussi, à leur manière. Mais la musique qu'ils jouent et qu'ils créent est une musique qui affirme des valeurs sociales et culturelles, qui sont ceux de cette communauté afro-américaine. Là où des vagues successives, et là en l'occurrence de poètes, de jeunes poètes des années 50-60, vont y trouver autre chose, qui s'y trouve certainement, mais à laquelle cette musique ne peut pas être réduite. Et on voit bien, il faut voir que, même par rapport à la drogue, le personnage de Charlie Parker, si on parle d'un grand bopper, il est sans cesse ramené à sa dépendance, alors qu'on sait qu'il était tout à fait conscient de celle-ci et de à quoi elle était due. Il y a des commentaires fameux de lui où il dit comment ça se fait qu'il est plus facile de trouver de l'héroïne ou de la cocaïne à Harlem la nuit qu'un litre de lait pour son bébé. C'est Charlie Parker qui dit ça, ou qui fout une raclée à Jackie McLean quand celui-ci tombe accro pour faire comme le maître.
Ils viennent de quel... est-ce que c'est pas un rapport de classe ? C'est-à-dire, la Beat Generation, Brooks est une famille très riche, bourgeoise, Ginsberg aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport de classe ? Charlie Parker vient de quelle classe sociale, par exemple ?
Ah bah il est évidemment, on va pas dire l'open prolétariat,
voilà,
mais il vient
de...
Mais l'exemple que je prends dans mon, je sais pas, je rentrerai pas tout de suite, mais l'exemple que je prends dans mon introduction, que ce soit, c'est Norman Mailer, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui fait partie de cette génération beat et qui écrit ce livre, Le Nègre Blanc.
Il y a une jeune fille qui un peu inconsciente, qui a monté un spectacle, la Beat Generation. Elle prend comme exemple Charles Bukowski. J'avais fait une émission avec Yves Blin. Il me dit, mais c'est une hérésie. Bukowski n'a jamais été de la Beat Generation. Pourquoi ? Parce que les gens de la Beat Generation le considèrent comme un prolo des lettres.
Bah oui. Mais regarde, attends, il y a un cas encore plus flagrant, c'est Bob Kaufman. Je ne sais pas si tu vois un peu quel est celui-là. Il a été publié, c'est toujours pas épuisé parce que le livre s'est encore moins vendu que ceux de Roger Vaillant, mais il a été publié chez Christian Bourgois, traduit, dans une édition bilingue assez bien foutue, avec notamment une traduction de Claude Pellieux, bon, donc le beat français, comme on en a fait sa réputation. C'était l'un des premiers beats, il est noir américain, mais il est aussi père de famille. Il a un humour ravageur. Il faut lire son manifeste aboministe, par exemple, c'est quand même assez formidable. Voilà, et c'est le laisser pour compte de la génération beat. Et lui, il est là dès le départ. On n'en parle jamais. Mais parce que il est, tout en étant d'un humour, je disais, ravageur, c'est-à-dire acerbe et tout à fait lucide, et en utilisant les mêmes techniques que les autres qu'il a grandement contribué à créer, en même temps, il affirme plutôt que dénigrer.
D'accord. Dans ton voyage que tu as fait, de façon anthropologue, ethnologue, on va voir tout ça, là, tu aurais pu faire un voyage identique dans le monde du rock, ou dans le monde, explorer Woodstock, ou explorer l'île de Wight, par exemple, tu aurais pu faire le même voyage. Ce qui fait que tu prends le jazz, c'est quand même un tropisme par rapport sensuel, sensitif par rapport au jazz.
Non, je pense pas.
Non, vas-y.
J'aime autant les groupes de rock que j'aime, je les aime autant que les groupes de jazz, par exemple. Je les mets sur un pied d'égalité, je fais pas de hiérarchie esthétique. Là, ça s'est entendu. En revanche, ce qui m'intéresse, par exemple, aujourd'hui, et c'est bien aussi de le dire quelque part à l'antenne de Radio Libertaire, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les gars de la ACM, les gaillards de la ACM...
Tu résumes le sigle, si tu peux le sigle.
Association for the Advancement of Creative Musicians, c'est-à-dire association pour l'avancement, j'ai pas envie de dire progrès ou promotion, pour l'avancement des musiciens créateurs.
D'accord.
Je pourrais en revenir sur pourquoi, parce que ASM c'est presque plus joli pour une fois qu'un acronyme est plus joli que ce que c'est des vides. On pourra revenir quand même sur le choix de ces termes parce qu'ils ont été réfléchis par ces gens-là. Mais en tout cas, il pose, et ça c'est quelque chose que je dis dès le départ. Fondamentalement, c'est ma problématique, ce qui fait qu'on s'est rencontrés il y a quelques années. Et je crois que c'est dès la deuxième page de mon livre. Je me réfère à Georges Bataille à ce moment-là. Non.
Ah, nous y voilà. Alors on y va, allez hop. Il faut être sincère. L'exergue, c'est André Breton.
Et Marcel Schwab et Michel Laris.
Donc l'exergue, c'est quand même clairement André Breton, dont parenthèse, on prétendait absolument sourd à la musique. À part Offenbach, il connaissait pas grand-chose.
Et Georgius.
Et Georgius, c'est déjà pas mal. Parce que là, c'est pas mal, j'aime bien Georgius. Voilà, il connaissait pas grand-chose.
Ouais, non, il connaissait pas grand-chose. On sait aujourd'hui. Enfin bon, je travaille un petit peu là-dessus, il n'y aura pas énormément de choses à découvrir, il ne faut pas non plus chercher le scoop, la révélation. Mais on sait que c'était plus ambigu que ça, que par exemple, quand il était en exil pendant la Seconde Guerre mondiale à New York, sa nouvelle femme, Elisa, l'amène dans les clubs de jazz à Harlem. On sait par sa correspondance, qui va paraître intégralement en plus l'an prochain, mais déjà certaines choses ont filtré, qu'il écoute du bebop dans les années 40-50, parce que les jeunes membres du groupe en écoutent et qu'ils se demandent ce que ça veut dire, et qu'il ne peut pas dire que ça lui plaît, mais en tout cas, ça ne le laisse pas indifférent. Voilà, donc, bref.
Parenthèse vite fait, tu situes la naissance du jazz à quelle époque, à peu près ?
Fin 19e siècle.
Bon, 1920, c'est déjà bien mûr.
C'est déjà bien mûr, mais ça va très vite, hein, quand même.
Ça va très vite. Tu es parfaitement insensible à des gens comme Stravinsky, des gens comme Schoenberg, Berg.
Alors, je réalise que.
C'est la question que je me suis posée en te lisant.
Ouais. Ouais.
Voilà, je me suis posé cette question en te lisant.
Ouais. Écoute, c'est une bonne question.
On ouvre. Tu peux revenir sur Radio Liberté à 89.4.
On peut ouvrir plusieurs tiroirs comme ça. Écoute, moi, c'est pas compliqué. Je crois que je suis déterminé. Comme tout le monde. Moi, je suis né en 1973, et j'ai grandi jusqu'à ce que je puisse faire mes choix musicaux notamment. J'ai grandi auprès de mes parents, qui écoutait Curtis Mayfield, qui écoutait The Temptations, qui écoutait Bob Marley, qui écoutait Sonny Rollins, qui écoutait Duke Ellington, voilà, et qui écoutait aussi King Crimson et d'autres choses. C'est-à-dire, ils avaient fait mai 68, ils aimaient un petit peu aussi la musique concrète ou Pierre Henry, mais bref, moi, le classique comme musique, hein, n'existait pas pour moi quand j'étais enfant, dans mon milieu familial. J'ai entendu tous les gens que je viens de citer et d'autres, sans savoir qu'ils étaient américains ou noirs, j'étais trop petit pour me poser la question, hein. J'ai baigné dedans, encore une fois, dans cet environnement musical, acousmatique, j'ai presque envie de dire, avant de savoir que Mozart existait. Et d'ailleurs, un jour, c'est assez amusant, parce que je pense que je ne suis pas tout à fait le seul comme ça. Moi, je me souviens très bien, c'est peut-être une génération, même si cette musique a eu une influence avant et après, cette génération-là. Mais moi, je me souviens qu'en plus de ça, quand j'ai été au collège et au lycée après, ça a été redoublé par l'expérience de mes camarades, dont pour beaucoup d'entre eux, c'était similaire. On n'avait pas à se positionner par rapport à Stravinsky, Beethoven ou Bach.
J'ai pris des gens qui étaient contemporains entièrement du jazz, hein.
Mais nos parents n'écoutaient pas ça.
Est-ce que tu considères que, par exemple, le morceau pour beaucoup de jazz le plus connu, Summer Tide, Gershwin, c'est du jazz?
Oui.
Bien sûr.
En tout cas, alors après, tu ouvres encore un autre tiroir là.
Bien sûr, non, mais on est là pour ça.
Est-ce qu'on peut définir statutairement le jazz?
Voilà, on est là.
Est-ce qu'il y a une essence du jazz? Moi, je ne crois pas.
Voilà, c'est là que je viens d'en arriver. Mais quand même, tu as choisi.
Enfin, tu vois, j'ai répondu à ta question précédente.
Mais tu es grand à un moment donné quand tu as 20 ans, 21 ans. C'est là que je te rends compte, je tiens à te le dire. Tu choisis un monde, effectivement. La musique en vigueur, c'est le rock, c'est pas le jazz.
Oui. Alors, je peux t'expliquer aussi pourquoi.
Voilà.
Alors, je t'explique pourquoi, je réponds aussi à une autre question avant ça. Il faut s'imaginer que c'est Charlie Parker qui me fait écouter, Edgar Varèse.
Ah bien.
Je vois que Charlie Parker, que j'écoute, a voulu prendre des leçons avec un compositeur contemporain qui s'appelait Varèse. Je me dis, tiens, qui c'est ce gars-là?
Magnifique. Varese.
Voilà. C'est Charles Mingus qui me fait écouter Stravinsky ou Schoenberg parce qu'il s'y réfère. C'est-à-dire que là, en termes de traduction et déplacement socioculturel, c'est passionnant. Et encore une fois, je ne crois pas être le seul. Ce sont des musiciens afro-américains dits de jazz qui m'ont fait découvrir le classique.
C'est très drôle parce que, en te citant les trois que je t'ai cités, je savais que j'en oubliais un, c'était Varèse. Varèse est le grand, hein.
Oui,
Varèse est le grand. Monique, c'est un peu là, et puis on va continuer notre conversation, hein. Voilà, on a plein de choses à se dire. Hop, hop, sur Radio Libertaire.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération Anarchiste. Géant, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ton CD. Alors, je te redonne le micro.
Redonne-moi le micro. Oh, bah, je dirais pas que c'est la faute de Monique, parce que j'en suis pas encore à ce point-là.
Non,
faut quand même pas exagérer.
C'est peut-être quelqu'un qui nous a hypnotisé depuis l'Algérie.
Petite parenthèse, lorsque Varèse donne son désert en 52, je crois que c'est au théâtre du Rond-Point ou quelque chose, c'est le scandale total, hein. C'est que les gens partent en poussant des cris de singe, des choses comme ça, hein. Oui. Voilà, magnifique, Edgar Varèse. Donc, pourquoi tu as mis cette citation de Breton en exergue? Ou alors parce que Breton t'accompagne partout, ou c'est...
Oui, très certainement. C'est non pas une grille de lecture, surtout pas, mais un filtre pour beaucoup de choses. Un filtre d'ailleurs qui parfois ne fonctionne pas aussi. Mais un filtre important, je crois qu'on en a tous, il faut savoir les reconnaître. Et il est important d'en avoir plusieurs aussi. Disons qu'il m'a porté, non pas vers la musique évidemment, ça serait assez surprenant, Charlie Parker vers Edgar Varèse encore, je veux bien, mais André Breton vers Charlie Parker, c'est plus difficile. Tu m'as posé juste une question avant qui peut peut-être permettre d'y répondre. Tu m'as demandé, j'essaie de ne pas perdre le fil aussi, est-ce que tu aurais pu faire ça vers des lieux du rock,
hein? Oui.
Cette musique étant davantage, a priori, celle de ma génération. Alors, j'écoutais du rock et j'en écoute toujours. J'ai écouté du rock avant d'écouter du jazz. À partir du moment où j'ai été libre de faire mes choix musicaux. Ce que j'ai cherché immédiatement, parce que les deux formes d'expression artistique qui me parlent le plus, c'est l'écriture, la poésie et la musique. Voilà. Les autres viennent après. Au niveau de ma sensibilité, hein, encore une fois, il ne s'agit pas de faire des hiérarchies. Et dans l'une comme dans l'autre, je et pour faire très simple, je dirais que je cherche des aventures. qu'on me fasse vivre des aventures. Des traversées, aventures au sens de traversée. C'est-à-dire qu'il me faut presque un film d'aventure. Hein. Il me faut des rebondissements, il me faut du dépaysement, il faut me prendre par surprise et ainsi de suite. Donc c'est ce sentiment-là que je préfère quand j'écoute de la musique. Et j'ai découvert ça dans un certain nombre de groupes de rock. Et je pense que ce sentiment-là a été aiguisé chez moi par André Breton. Donc voilà,
bien,
la réponse.
Oui,
j'ai aussi, étant plutôt mélomane, j'ai aussi de trouver dans la musique. Je l'ai découvert dans le rock et je restais sur ma faim. C'est-à-dire, alors c'était presque de façon quantitative plus que qualitative. C'est-à-dire que les quelques groupes de rock que j'aimais, je les aimais et je les aime toujours d'ailleurs passionnément. Et j'en découvrais parfois vraiment de nouveaux. Mais ça ne me rassasiait pas. Il m'en fallait plus. Il y a eu un étrange concours de circonstances. Alors, si tu veux, je te raconterai une autre fois parce que c'est une longue histoire, jolie mais longue. Alors que j'en écoutais aussi grâce à mes parents, mais c'était pas que de ce côté-là que j'avais envie de chercher. Et un jour, en regardant un film qui n'était pas un documentaire musical, je tiens à le préciser, un film de fiction de Mike Figgis, il y avait dans ce film, je la fais courte, le Free Jazz Ensemble de Cracovie. Qui en fait jouait les troublions, c'est-à-dire dans le film, ils avaient pour rôle d'indisposer des réunions municipales où des politiciens et des mafieux se réunissaient ensemble. Donc on leur avait demandé du jazz parce que le jazz, bah, c'est bien, c'est rassurant, c'est suffisamment poli et sophistiqué pour qu'on trouve ça élégant, et en même temps c'est un peu plus canaille que le classique, encore un peu. Donc voilà, donc on s'est dit c'était très bien, et évidemment le programmateur leur joue un sale tour et leur programme un ensemble d'improvisations sauvages. Bon bref, ça c'est le pitch, comme on dit aujourd'hui, sauf que moi je suis devant mon écran, j'entends cette musique et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'il est possible de faire ça avec des sons ? Et dès le lendemain, je vais dans un magasin de disques et je demande un disque du Free Jazz Ensemble de Cracovie, que je n'ai pas trouvé, mais le Gaillard, en revanche, m'a conseillé un disque d'Ornette Coleman, un disque d'Archie Shepp, un disque de John Coltrane et un disque de Sonny Rollins que je connaissais déjà, donc ça a fait mon affaire.
Avant qu'on essaye, Monique, de passer quelque chose, si quelqu'un, au niveau de la littérature, voulait s'intéresser au jazz, littérature française, qu'est-ce qu'il faudrait lire ?
Sur le jazz ?
Oui, en rapport avec le jazz, sur le jazz. Est-ce que quelque chose comme Gaston Criel, Swing, ça te dit quelque chose ?
Ah, tu veux dire des poètes ou des écrivains ?
Oui, voilà.
Alors moi, je trouve que le livre... Alors Gaston Criel, bien sûr, ça me dit quelque chose, et j'ai tout à fait une bonne référence. En termes de création littéraire ou poétique, le livre que je préfère, moi, c'est D.E., de Claude Tarnot.
À Claude Tarnot,
récit d'une aventure afro-américaine. Ça a été édité ou réédité, je ne sais pas. En tout cas, si
l'auteur
ça avait
du journal de la Marie-Jeanne.
Oui, exactement.
C'est ça.
Il y a une dizaine d'années, la galerie, là, l'écart absolu, avait pu. Non, est-ce que c'est une galerie ? Enfin, non, ça va être le nom de la collection. Avait publié deux. En fait, le livre s'appelait La fin du monde au départ, et c'est le récit de ses aventures new-yorkaises, notamment aux côtés et à l'inspiration de Thelonious Monk. Et il avait trouvé le titre La fin du monde tellement convenu finalement et tellement utilisé et usé jusqu'à la moelle par un, qu'il a gardé juste la syllabe de fin. D.E.
Je ne sais pas si tu connais Le Pont de l'Épée, oui. Numéro 58, Jazz.
Oui.
Tu connais ce numéro-là ?
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses ? Tu l'as en tête ?
Non, je ne l'ai jamais eu, je l'ai feuilleté.
Ah ben, alors, on me demande d'écrire une introduction pour un choix de poèmes parmi lesquels se trouve mon ami Robert Goffin. Sur le jazz et l'Amérique. Je ne connais que peu de choses en poésie, si ce n'est le merveilleux Langston Hughes, qui modélia jadis Weary Blues, repris par Metz, mais peut-être sais-je quelque chose à propos du jazz. Après, je te dirai qui a écrit ça quand même. C'est à travers le papa Goffin que je rends hommage à tous vos poètes, et laissez-moi vous dire qu'à côté de ses pères, Robert Goffin sera toujours considéré comme notre poète vivant, à côté de Hugues Césaire et les autres. Goffin est mon homme, Goffin is my man. Bon, ça c'est signé quand même quelqu'un de pas mal, c'est Louis Armstrong.
Il cite Césaire.
Oui, voilà.
Alors,
ça, c'est une des grandes questions.
Oui.
Il y a du Césaire, le jazz, ou pas ?
Pas à ma connaissance.
Voilà, moi non plus.
Non, pas à ma connaissance.
Non, plus, c'était une des grandes interrogations.
Son compagnon de route, René Ménil, qui est un aussi grand poète, mais qui est un homme formidable, a écrit plusieurs articles formidables sur le jazz, qu'on trouve chez Jean-Michel Place dans le recueil de ses essais critiques. Donc, forcément, et on trouve des allusions au jazz dans ses poèmes. Ça, je les ai cherchés, je les ai trouvés. Ce sont des allusions.
Césaire, j'ai pas souvenance.
Mais on n'a pas. Alors qu'il y a un flow chez lui qui pourrait très facilement s'apparenter. Alors là, pour le coup, plus à Coltrane qu'à Archie Parker.
Merveille, Césaire. On va essayer, Monique.
Eh bien, écoute, Géant, j'ai essayé ton CD sur la platine qui lit tout, et même elle ne veut pas en entendre parler sur certaines pistes. Donc, je vais envoyer tout de suite le deuxième CD que tu m'avais proposé, et puis on verra après.
Monique, vous voyez, quand vous voulez, vous y arrivez, Monique. Hein? Bon, Alexandre Pierrepont, vous posez ça sur la table, merci, c'est pour aujourd'hui. Alexandre Pierrepont, la nuée, la ACM, un jeu de société musicale, les éditions parenthèses. On va quand même plonger dans ce livre-là, mais vite fait, parce qu'on va essayer de faire un peu synthétiser, là. Il y a deux personnages que vous évoquez dans l'introduction. C'est Robert Jolin, vous avez connu, mythique.
Oui, qui a été mon professeur.
Il était votre professeur, d'accord.
Les trois dernières années de sa vie.
Jeannin qui est mort il y a quelques années d'ailleurs.
Oui, 1996 déjà.
96. Ouais.
Et donc je l'ai eu comme professeur.
Quel rapport au jazz ?
Aucun.
Ah bon, d'accord, je me suis demandé, aucun. D'accord.
Non, c'est l'ethnologie.
Ah d'accord.
C'est lui et Roger Renaud qui m'ont donné l'envie de faire l'ethnologie. Moi, quand je suis sorti du lycée avec un bac littéraire et pas particulièrement l'envie de faire des études, en tout cas pas de littérature, ça c'était certain, que je me demandais quoi faire. Pendant cette année de terminale-là, que j'ai rencontré Roger Renaud d'abord et qui m'a ensuite rabattu vers Robert Jolin, c'était...
Travailler sur l'Afrique, Jolin, c'est ça?
Oui, les Sahara du Tchad.
C'est ça.
Et puis ensuite les Bari en Amérique du Sud, et puis après aussi la géomancie arabe, quantité de sujets. Voilà. Et c'était 1992, c'était l'année du cent-centenaire de la découverte, la soi-disant découverte des Amériques, et donc en protestation contre ça, Jolin avait organisé des rencontres, l'ouvert et le fermé, il appelait ça. Évidemment, la civilisation qui s'était propagée était la civilisation du fermé, détruisant les sociétés de l'ouvert. Voilà, il y avait une série de conférences, je me souviens aussi, d'Edouard Glissant, etc. Et donc je l'avais rencontré d'abord comme conférencier, et puis là ça m'avait convaincu tout de suite, c'était ça qu'il fallait que je fasse.
C'est Robert Jolin, et puis il y a Vincent Bounour aussi. Quel rapport avec le jazz?
Aucun.
D'accord, vous avez viré, vous pouvez partir de chez vous.
Je crois que j'en ai jamais parlé avec Vincent, qui devait certainement avoir hérité, à ma connaissance en tout cas, de la réputation de Breton quant à la musique. Il était trop austère, trop janséniste pour ça.
C'est quoi une ethnologie ou une anthropologie surréaliste? Ou la phrase, en fin de compte, si on vous lit, tout anthropologue ou ethnologue doit être surréaliste, quelque part.
Ou alors, quand je dis ça, évidemment... ça le serait par rapport à ce qu'est devenu l'ethnologie universitaire aujourd'hui. Comment elle s'est structurée, je fais presque un jeu de mots là, parce qu'évidemment, en toile de fond, il y a le structuralisme, même s'il a été aussi remis en cause ces dernières années. Mais d'une certaine manière, il est arrivé à l'ethnologie ce qui est arrivé au socialisme. On est passé d'un socialisme utopique à un socialisme scientifique, avec les dégâts que l'on sait. Ben, on est passé d'une ethnologie pareillement utopique, avec des mauvais côtés et des naïvetés aussi, que je n'oublie pas. Hein.
Parenthèse dans la parenthèse, on nous rabat les oreilles, anniversaire oblige, avec Roland Barthes. Ça vous inspire ou pas?
Rien,
moi non plus, vous pouvez rester. Vous pouvez rester, effectivement, non. La dimension d'André Breton et celle de Roland Barthes, c'est le rapport entre un guépard et un basset. Hein.
Oui.
Voilà, on a l'impression
de cesser. On est à peu près d'accord. Cela étant dit, j'ai une petite anecdote savoureuse pour nos auditeurs. Je participe à un ouvrage collectif, parce que Roland Barthes, c'est aussi le héros d'un roman policier dans cette rentrée littéraire. Voilà, enfin, bref, roman que j'ai pas lu et qui m'intéresse pas, c'est pas la question. Mais j'ai fait une plaisanterie sans le savoir à un éditeur qui me rappelait que j'étais en retard pour rendre un article dans un ouvrage collectif. Je lui dis, je suis désolé, je n'ai pas le temps. Je suis en train de mettre la dernière main, un roman de science-fiction qui situe Wittgenstein dans une tribu amazonienne. Mmh. C'était une blague, évidemment. L'éditeur m'a pris au sérieux et a voulu à tout prix que je lui confie le manuscrit.
Et alors ?
Et ben, j'ai dit, il faut que je l'écrive et je deviendrai riche.
Payer, hein, j'allais le dire, faut payer. Alors, la nuée. On voit bien
ce qui excite nos contemporains.
Bien sûr, il faut payer. La ACM, jeu de société musicale. Sur la couverture, il y a une photo de Jazzman. Mmh. Noir, 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 noir. Mmh. Il n'y a pas une femme.
Il y en avait dans la ACM. C'est le hasard de cette répétition-là. Les hommes étaient majoritaires.
D'accord.
Oui.
D'accord. Donc, tu as eu vent de ce groupement, de cette association. Comment tu appelles ça?
Tout simplement parce que...
C'est très connu ou pas?
Oui.
D'accord.
Enfin... Qu'est-ce qui est très connu?
Non, mais je veux dire
dans le monde où Roger Vaillant se vend à 50 exemplaires.
30.
Enfin, depuis tout à l'heure, ça a progressé parce que grâce à.
D'accord.
Mais c'est relativement connu. Mmh. C'est pas totalement underground. Mais encore une fois, on a zappé, on est passé à autre chose tout à l'heure. Mais tu sais, je disais que Jacques, moi-même j'ai oublié, mais je disais que dès la deuxième page du livre, je faisais référence à Georges Bataille. Alors, Bataille, c'est pas. Il y a plusieurs batailles. Donc, auxquelles batailles je fais allusion? Et ça va répondre à cette question. Moi, celui qui me passionne le plus, c'est pas forcément celui qu'on exploite le plus. C'est-à-dire le Bataille qui, dans les années 30, s'interroge sur la fin des années 20, s'interroge sur les faits de société. Voilà, c'est le Bataille d'avant la Seconde Guerre mondiale. Non pas que l'autre ne m'intéresse pas, hein, je ne les oppose pas, mais voilà, c'est là où je trouve mon grain. Et donc, il a, je le cite, essayant de faire un parallèle. Alors, je peux même la lire, cette citation.
Vas-y. Si on pense, continue à parler, je cherche. Si on pense à la même, on va bien voir.
Oui, c'est sur les communautés électives, communautés de fait.
Il m'est agréable, voilà. C'est ça.
Oui,
il m'est agréable d'opposer nettement le principe de la communauté élective à la fois à celui de la communauté traditionnelle à laquelle j'appartiens de fait, mais de laquelle je tiens à me désolidariser, et tout aussi nettement au principe d'individualisme qui aboutissent à l'atomisation démocratique.
Oui, tout à fait.
Ouais. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans... C'est du Bataille pur jus.
Ah oui, oui. Ouais, mais ce qui m'intéresse, c'est voilà, comment, et d'une certaine manière, on va, parce qu'on est très logique malgré nous, on va revenir sur ta question par rapport au poète beat. Ce qui m'intéresse, c'est comment, en tant qu'ethnologue, et avec les raisons que j'ai eues et que j'ai toujours de faire de l'ethnologie, et pas forcément une ethnologie que scientifique, donc, ce qui m'intéresse, c'est voilà, comment peut-on être en révolte contre ce monde, parce que voilà, c'est une position de principe et de base pour moi, en tout cas par rapport au monde dans lequel je suis né. En même temps, je suis forcé aussi de considérer les parcours, les itinéraires de gens équivalents à moi dans les générations précédentes et les heures et malheurs qui leur sont arrivés pour essayer de comprendre aussi pourquoi on est en révolte contre ce monde. Alors, on peut l'être. D'abord tout simplement parce qu'on, quand on voit son état et ce qui est perpétré, bien sûr, et ça suffit comme ça d'ailleurs, mais on peut aussi vouloir s'interroger sur, c'est aussi un monde qui aime qu'on lui crache à la gueule. C'est-à-dire, l'Occident est aussi une société, une civilisation qui se nourrit de la détestation
Il est servi pour l'heure, hein.
Donc il faut essayer de comprendre ça, c'est-à-dire non pas pour revenir sur le sentiment de révolte, mais pour mieux le contextualiser. Et notamment par rapport à d'où je viens moi, et c'est ce qui m'a porté à faire de l'ethnologie et faire de l'ethnologie d'un groupement comme celui-ci. C'est-à-dire qu'on est face à des individus qui, alors on revient à la double conscience aussi, sont à la fois membres de la communauté afro-américaine, ils sont tous afro-américains dans la ACM. Et en même temps, essayent de créer autre chose. Mais cette autre chose qui ne soit pas dissociée de l'appartenance qu'ils ont à une communauté dans laquelle ils se reconnaissent, mais dont ils ne se suffisent pas.
C'est le principe clé.
Je dirais d'une certaine manière. D'accord. Et j'aimerais dire, d'une certaine manière, je pense que même si je n'ai pas fini de répondre à ta question, que si on faisait retour sur tous les mouvements d'avant-garde artistique et politique du XXe siècle, et puis on peut même remonter jusqu'au romantique allemand, si on veut, on voit que finalement, c'est cette prise de conscience qui a parfois manqué. C'est-à-dire que comment je peux participer de ce monde parce que de toute façon, je n'ai pas le choix, parce que de toute façon, je suis déterminé et que ça revient par derrière si je n'y prends pas garde. Donc, il y a bien quelque chose dont il faut que j'accepte. Et en même temps, il faut que avec ce que j'accepte, je sache d'autant mieux ce dont je me détourne et vers quoi je veux aller. Donc, comment être à la fois d'une communauté de faits, si je reprends bataille maintenant, qu'on ne ratifie pas. Non. Je veux, à l'intérieur de mon héritage, choisir, et éventuellement ne pas être le seul à le faire, me reconnaître avec d'autres dans ce choix, dans cette sélection. Je veux choisir certaines choses, et en refuser d'autres. Et à partir de là aussi, puisque on fait le même choix à quelques-uns, communauté élective, avancer vers une sorte d'entre-deux, de situation d'entre-deux.
Ce que tu veux dire, si j'ai compris, ce qui t'intéresserait, ce serait le bataille de la société secrète.
Oui, tout à fait.
Beaucoup plus que bataille de porno, c'est
oui, voilà, réseau. Voilà, exactement. D'accord. Enfin, je veux dire que non, j'en ai pas l'utilité, moi, d'accord, pour ce que je fais. Mmh. Mais encore une fois, je ne les oppose pas, ces deux batailles.
C'est un peu plus tard que les années 20, la société secrète. Hein.
C'est la fin des années 30, ouais. Avant la Seconde Guerre mondiale. Oui.
Là-dessus, il faut lire le livre de Michel Fardoulis-Lagrange, GB Wannabe Présomptueux. C'est lui qui en dit le plus sur le sujet.
Oui.
Je te raconte une petite histoire rapide. Il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, même plus, au collège de philosophie, une réunion comme ça. On a réussi à réunir. On s'est aperçu que Bataille avait deux vies parallèles, une vie simultanée, une vie partouzeuse et une vie philosophique. Et on a retrouvé des survivants de chaque groupement. Du côté philosophique, il y avait Michel Fardoulis-Lagrange qui a écrit sur la société secrète de Bataille, et on a trouvé un type qui était le partouzeur de service. Et on les a confrontés. Et je peux te dire que celui qui passe le mieux le temps, c'est le philosophe et non pas le partouzeur. Le partouzeur est arrivé avec une casquette à carreaux, le Parisien sous le bras. Il ne pouvait pas rester parce que le lendemain, il baptisait son petit-fils et il avait appelé sa fille Marie-France. Voilà. On était dans un. Bon, voilà. Donc, t'as découvert ça comment
Parce qu'à partir du moment où. Si tu reprends le récit que j'ai fait tout à l'heure, voilà, donc je m'aperçois que ces musiques-là. Sont plus et mieux aventureuses que celles que j'écoutais au préalable. Et je disais tout à l'heure, quantitatif presque plus que qualitatif. C'est-à-dire qu'en fait, je continue aujourd'hui encore à être à la recherche, par exemple, de groupes de rock qui me passionneraient. D'accord. Et j'en trouve encore parfois. J'en trouve peu.
Ça, c'est le jazz.
Alors que dans le jazz, j'en trouve énormément.
Mais je te parle de ce groupement. Oui, voilà.
Et donc, il a fallu que je trouve mes propres références, et comme tout gamin. On veut bien être aidé par un grand frère ou par un parent complice, mais à un moment il faut qu'on fasse son propre chemin tout seul, donc il a fallu que je trouve mes références à moi, et donc en fait j'ai été animé par le même mouvement qui m'a porté vers les surréalistes contemporains ou les post-proto-crypto-surréalistes.
Ouais, c'est bien dit ça.
Donc j'ai cherché les vivants. D'accord. C'est aussi pour ça que je fais de l'ethnologie et pas de l'histoire d'ailleurs. C'est les vivants qui m'intéressent. J'étais ravi de découvrir John Coltrane, désolé d'apprendre qu'il était décédé en 1967, qui aujourd'hui pouvait susciter les mêmes émotions chez moi et qui soit un contemporain. Donc j'ai cherché ces contemporains et je les ai trouvés notamment du côté de Chicago et de cette organisation, la ACM.
Tout le monde est noir là-dedans ?
Oui.
Tout le monde est noir, il n'y a pas de blanc ?
Non.
Pourquoi ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Alors, on va mettre les pieds en place. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Ouais. Et c'est pas fait de forme de ghetto quelque part.
Voilà. Alors, je vais te répondre en te disant que je me suis posé exactement la même question. Voilà. Exactement la même. Et je m'en suis ouvert à l'époque à mon directeur de thèse, parce que le livre a été une thèse d'ethnologie avant d'être transformé en livre à proprement parler. Et je lui ai posé, j'étais pas dans un studio de radio, mais j'étais à table dans un troquet avec lui, à une autre forme de comptoir. Et je lui pose la question que tu es en train de me poser. Et c'est lui qui m'a répondu alors qu'il n'y connaissait rien. Il suivait mon travail, mais il ne connaissait pas cette organisation, il n'a jamais mis des pieds à Chicago, etc. Mais il commençait à comprendre un peu de quoi il en retournait. Et il me dit, mais tu ne crois pas que ces gens-là ont besoin d'un peu d'intimité ? Ouais. Et alors,
continue.
Ça a commencé comme ça. Il me dit, voilà, première question qu'il me pose, à laquelle il m'a été facile de répondre, et je te le dis tout de suite. Est-ce que tous les membres de l'ACM, ne jouent qu'avec d'autres membres de l'ACM ? Réponse, non. Est-ce que donc, dans les autres musiciens avec lesquels il joue, il y a des musiciens blancs, jaunes, rouges, verts, à pois carreaux, bref. Oui. énormément, chacun d'entre eux. L'ASM, c'est l'endroit par rapport à une communauté dépossédée. Dépossédée, alors on peut faire une analyse bête et méchante de sociologie, hein. Dépossédée des moyens de production, dépossédée des moyens de diffusion, dépossédée souvent des choix artistiques. Encore une fois, surtout à l'origine de l'ASM, au milieu des années 60. Hein. Ah, ça voilà. Va un peu mieux aujourd'hui.
C'est années 60, la formation, c'est années 60.
1965.
C'est-à-dire, ça se forme...
En plein mouvement des droits civiques.
Voilà, au moment où il monte le Black Power.
Oui, tout à fait. Le Black Arts, c'est l'aile culturelle du Black Power qu'on connaît mal en France. Il y a peu de références là-dessus et qu'il faut souvent citer. Hein. Alors, Black Power, bien sûr, mais l'aile culturelle, c'est le Black Arts Movement.
Toi qui as une mémoire à toute épreuve et pour qui le monde de l'athlétisme n'a pas de secret, je suppose.
Tu penses aux Jeux Olympiques du Mexico ?
Oui, c'est Mexique 68 ?
Oui.
D'accord, c'est ça. C'est les Black Panthers. C'est beaucoup plus dur.
Pour les musiciens, tu veux dire ?
Non, pour le phénomène idéologique, c'est-à-dire qu'il y a le Black Power et le Black Panther, c'est beaucoup plus dur.
Alors, il y a quantité d'organisations. Les Black Panthers, c'est les plus connus. Hein, ça, il faut jamais... Il y a une multitude d'organisations qui durcissent le ton et les méthodes, à partir effectivement du milieu des années 60. C'est-à-dire à partir du moment où on s'aperçoit, et Martin Luther King aussi d'ailleurs, hein, on s'aperçoit qu'il n'y a pas simplement une ségrégation juridique, à travers voilà, les transports en commun, les commerces, l'accès aux lieux publics, etc., mais qu'il y a également derrière elle une ségrégation économique. Et c'est là où Martin Luther King et son mouvement d'ailleurs montent au nord, si j'ose dire, à Chicago même, hein, grève des loyers pour remettre en cause la ségrégation urbaine, etc. etc. Bon. Et on s'aperçoit aussi que donc, toutes les réussites sur le plan légal, juridique, du mouvement des droits civiques ne suffisent pas. D'ailleurs, non seulement ne suffisent pas, mais là on peut faire une avance rapide aussi vers 2015, ne suffisent toujours pas hein. Oui. Et un président noir, alors c'est peau noire, masque blanc, mais un président noir à la tête des États-Unis et d'Amérique n'y a rien changé non plus. Et des événements récents comme à Baltimore, il y a quelques semaines, nous l'ont rappelé, mais il n'y a pas que cela. Bref, donc il y a effectivement, c'est le moment où apparaissent différentes formes de pensée et d'action révolutionnaire aux États-Unis. Il y aura le nationalisme culturel, qui est assez afrocentriste ou panafricain. Il y aura le nationalisme religieux, évidemment, avec les Black Muslims. Il y aura un nationalisme plus politique, plus politisé, voire marxiste, avec notamment les Black Panthers. Il y en a certain nombre.
Tu as cité ce que je voulais te faire citer, c'est-à-dire c'est que parmi les Black Panthers, on trouve Mohamed Ali, très proche. Musulman.
Oui.
Musulman. C'est-à-dire que dans ce groupement, ACM, qui ça. Tu as des religions différentes qui se mêlent.
Oui, et des athées.
Voilà. Tu as des religions différentes. Ah, oui. Ça arrive à se mêler sans problème.
Voilà, il n'y a pas de diversité au niveau de la couleur de la peau, va-t-on dire. Parce qu'encore une fois, essayons de comprendre. Ce n'est pas un racisme inversé. Puisqu'encore une fois, comme je l'ai dit, et la preuve est facilement faite et confirmée, année après année, hein, tous les membres de l'ASM collaborent, et pas simplement avec d'autres musiciens et d'autres couleurs de peau, mais aussi d'autres artistes ou d'autres organisations culturelles ou sociales et culturelles. Ça c'est une constante, hein. En 65 c'est déjà le cas, en 2015 ça l'est toujours. L'ASM c'est l'endroit où ils peuvent être un peu libres de la direction des affaires. Voilà, sachant que tout individu membre de l'ASM, et c'est comme ça qu'il faut reposer le problème, ne se contente pas de ses activités dans l'ASM. Il y est, c'est une chose, il en est fier, c'est une chose, mais il ne se limite pas à ce qu'il fait dans l'ASM. Et il est totalement libre de ses autres activités. Voilà, sachant cela, qu'il ne faut donc jamais oublier. On voit que le critère, et c'est aussi ça qui m'a intéressé par exemple par rapport aux autres mouvements artistiques qu'on a évoqués tout à l'heure. Il n'y a aucune unité stylistique ou idéologique dans l'ASM. Aucune. Il n'y a pas d'esthétique musicale. On se dit, ah tiens, ça c'est l'ASM, c'est typique. C'est la signature. De la même manière que dans le mouvement surréaliste, si on pense au côté pictural des choses, hein, je veux dire, quels sont réellement les points communs entre Johan Miro, René Magritte et... voilà.
Oui, il y a quand même des choses à ne pas faire.
Oui, bien sûr, mais c'est...
Quand tu prends comme exemple le mouvement surréaliste, oui. Tu ne vas pas mettre un paysan sur un tracteur avec une... Avec une
c'est comme les membres de l'ASM ne jouent pas de la country.
Voilà,
oui,
c'est ça que je voulais te dire.
Bien sûr, il y a des choses qu'ils ne feront pas, encore que ça serait assez amusant, mais bon c'est donner leur propre version de la country, je veux dire. Mais il y a quelque chose d'exploratoire, et qui là en revanche est un peu prescrit, mais de toute façon on va pas à la SM si on n'a pas envie d'explorer en musique de la même manière.
Et tu y rentres comment?
On est coopté.
Si tu joues comme, comme une savate, est-ce que tu
on
peux
peut pas demander à rentrer dans la SM. On est coopté.
T'es coopté.
Voilà. C'est-à-dire qu'on reçoit, voilà. On reçoit une proposition.
D'accord.
Et tu as et on est parrainé.
Parrainé, il faut que tu aies une valeur.
Oui.
Il faut que tu aies une valeur.
Oui, il faut que tu sois déjà connu.
Déjà connu.
Connu, pas du grand public.
D'accord.
Des membres de l'ASM.
D'accord.
Voilà. Et comment être connu? Tout simplement parce qu'on a joué lors de sessions, on a traîné, on a discuté.
Et c'est quoi l'avantage? S'il y a un avantage.
Alors, oui, il y en a un, c'est qu'aujourd'hui, l'organisation est relativement connue. Tu vois, on a fêté ses 50 ans au Théâtre du Châtelet à Paris, il y a un mois. À Chicago, à New York aussi, il y a eu quantité d'événements. Donc, mon livre n'est pas sorti par hasard cette année-là également. Et c'est pas le premier livre sur l'ASM, il y en a déjà un aux États-Unis. C'est le premier livre en langue française. Être membre de l'ASM aujourd'hui, c'est valorisant. C'est-à-dire que c'est un gage de qualité musicale et artistique. En revanche, et ils sont très clairs là-dessus, les membres de l'ASM, chacun n'attend pas après l'organisation pour vivre sa vie et faire sa carrière. Et ceux qui attendraient, parce que ça s'est présenté comme cas de figure bien sûr, ont rapidement été déçus ou éconduits. Donc non, il s'agit de se réunir pour ensemble faire avancer les choses et non pas compter que l'estampille ACM fasse tout le travail pour vous sans que vous ayez rien à fournir. C'est vraiment un collectif.
Hein. On écoutait leur venir, si Monique. Monique, préparez-vous. J'ai pas retrouvé le passage. Je sais que c'est page 31, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Tu m'excuses. C'est le coup de la trompette blanche et de la trompette noire. Alors, si tu vois pas ce que je veux dire, c'est-à-dire, c'est quasiment dit qu'un blanc n'aura pas le même son dans une trompette qu'un noir.
Eh bien, j'oserais dire. Alors,
vas-y,
ça peut être relativisé. D'abord, on peut trouver quantité de contre-exemples de cela.
Voilà.
Encore une fois, donc quand on parle de quelque chose.
Tu n'as pas la mélancolie du peuple noir, ça? Quand on te lit?
Ah bah, étant donné qu'on vient tous de la vallée du Rif.
Non,
pas nécessairement, parce que par exemple, je vais te donner un contre-exemple. Je vais te donner un contre-exemple qui choquerait notre bon ami Jimmy Gladiator s'il m'entendait.
Salut Jimmy.
Si on parle de rock et de rock'n'roll même, et à part les tout premiers, hein, les Chuck Berry, les Little Richard, etc., j'ai toujours trouvé que, moi, dans mes goûts, hein, que les musiciens anglais, particulièrement, ou américains blancs, avaient développé cette musique-là de manière beaucoup plus intéressante que les musiciens noirs, les groupes de rock noirs actuels. Il y a même eu dans les années 80 une Black Rock Coalition à New York, créée à New York avec des groupe de rock noir. Quand je les écoute, je trouve ça très ennuyeux, moi à titre personnel. Je préfère ce que les MC5 ou les Stooges ou peu importe, Sonic Youth et Pavement plus récemment ont fait avec cette musique appelée rock.
Alors, quelques décennies plus tard, les beatniks caressèrent le même rêve d'évasion. Aussi bien Norman Mailer dans Le Nègre Blanc que Jacques Kerouac. Là, je cite. Hein. Un soir, au centre de Lila, je marchais tous les muscles endoloris au milieu des lumières de la 27e rue de Wilson Street, dans le quartier noir de Denver. Je souhaitais être un noir. Je sentais que le meilleur de ce que le monde blanc m'avait offert n'était pour moi ni assez d'extase, ni assez de vie, de joie, de plaisir, d'obscurité, de musique, pas assez de nuit. Bon, on va continuer comme ça. Ça, c'est Kerouac, ça. Voilà.
Bah évidemment, mais c'est lui qui a la nostalgie, c'est pas moi. Oui, mais évidemment, mais c'est pour ça que je cherchais. Dire que, en gros, mais on parlait de Rimbaud au tout départ. Qu'est-ce qu'il va chercher Rimbaud au Harare?
C'est quand même une émission cohérente.
On est logique malgré nous. C'est ce que je te disais.
Bien sûr, logique malgré nous. On est là pour ça.
Mais qu'est-ce qu'il va chercher? Qu'est-ce que vont chercher en général tous ces Européens qui n'étaient pas forcément animés de mauvais sentiments et qui vont voir ailleurs s'ils y sont? Parce que ici, ils n'y arrivent point. Oui, effectivement, donc ça peut être parfois un étranger de l'intérieur, comme c'est le cas pour les Afro-Américains. Je voudrais, juste par rapport à tout ça, il y a comme quelque chose qui me semble important aussi de voir, c'est que le problème est à de multiples entrées. Il faudrait d'abord s'interroger sur ce qui nous pousse vers l'autre, et si c'est réellement toujours ambigu. Bon, bref, quelles sont les déterminations, bien sûr. Moi, quand j'ai fait mon ethnographie à Chicago, blanc européen, et pendant des années donc, hein, j'y ai passé 8 ans, avec des allers-retours tout le temps, bien sûr, entre la France et les États-Unis, j'ai fini à être qualifié par les musiciens blancs de la ville de négrophile.
Bien.
Je parle parce que, et alors que on pourrait assez facilement prouver que ces mêmes musiciens ou promoteurs, pas que musiciens, ou promoteurs blancs de la ville, et là je parle du début du 21e siècle à Chicago, invitent relativement peu de musiciens noirs et sont les mieux servis en termes de programmation par les clubs, les festivals et les labels de la ville. Mais quand tout à coup on fait un travail avec des musiciens afro-américains, on est négrophile.
Avant d'écouter un brin de musique, et après je vais te montrer combien je suis profane en la matière, tu tenteras de t'en sortir. Voilà, Monique. Popo 01 43 71 89 40, toujours avec Alexandre Pierrepont, La Nuée. La CM, un jeu de société musicale aux éditions Parenthèse. Alors que j'en profitais Une chose, une question, j'ai toujours une question par rapport aux influences de la musique et du jazz. Qu'est-ce qu'on fait des Caraïbes dans tout ça? Est-ce qu'il y a une influence? Parce que là, tout à l'heure, on parlait des musulmans, les chrétiens, les animistes, on peut tout faire. Le vaudou, des choses comme ça, est-ce qu'il y a une influence?
Oui, bien sûr qu'il y en a une. Bien sûr qu'il y en a une. Si on imagine la Nouvelle-Orléans au 19e siècle. Alors encore une fois, pourquoi je parle de la Nouvelle-Orléans? Tous les livres en parlent, tous les historiens, tous les musicologues. L'importance de la Nouvelle-Orléans pour cette musique-là, évidemment. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en avait pas ailleurs qu'à la Nouvelle-Orléans, hein, au 19e siècle. Maintenant, les conditions ont été réunies plus particulièrement là pour que le mélange prenne. Voilà, hein. Donc c'est dans ce sens-là que je parle de Nouvelle-Orléans et pas au mépris des autres endroits. Et notamment parce que, et ça va répondre à la question caribéenne, puisque de toute façon c'est la porte du Golfe du Mexique côté américain, la Nouvelle-Orléans. Parce qu'il y avait, y compris avant l'abolition de l'esclavage, dès la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe, il y avait à la Nouvelle-Orléans une plus grande mansuétude, on va dire, quant aux pratiques, aux usages, aux us et coutumes des Afro-Américains que dans d'autres parties du Sud, où était 90-95% de la population noire. Et donc, on les autorisait, et notamment le dimanche, à se réunir et à pratiquer leur danse, leur musique, leur rituel. Et également à recevoir, donc, ce qui fait que, première chose, déjà, dans ce Deep South, s'est conservé à la Nouvelle-Orléans des pratiques aussi magico-religieuses, hein, qui sont liées à ce qu'on appelle pas le vaudou, mais le hoodou, voilà. Dans le sud des États-Unis, et qui étaient en communication. Alors, on n'en était pas encore à l'époque des boat people, hein, mais il y avait quand même un certain nombre d'embarcations, d'esquifs qui traversaient le golfe du Mexique dans un sens et dans l'autre, d'une île à une autre, et jusqu'au sud des États-Unis, en tout cas jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Donc, on sait que, notamment au niveau des influences, au niveau des percussions, à cette époque-là, quelque chose a été conservé. Quelque chose qui, en plus, évidemment, et à partir de la Seconde Guerre mondiale, si on avance un petit peu dans le temps, à partir de la mode du Latin jazz, l'importance prise de plus en plus par l'intermédiaire des Portoricains d'abord, très nombreux à New York et ailleurs aux États-Unis, l'importance à nouveau prise par les différentes traditions percussives qui venaient de Porto Rico, qui venaient de Cuba, qui venaient d'autres îles, et puis après un certain nombre de modes qui défilent à partir des années 50. Donc c'est à la fois une histoire ancienne. C'est pour ça que je remontais au 19e siècle et à la Nouvelle-Orléans, et c'est aussi une histoire qui s'est renouvelée plusieurs fois à partir des années 40-50.
Il y a une expression que tu emploies, là. On va aller très vite, d'accord? Il nous reste 10 minutes, pas plus, on va aller très vite. Musique ethnique. Le jazz est une musique ethnique?
Non.
Voilà, c'est bien.
Mais évidemment, aujourd'hui, c'est parler d'ethnique, c'est compliqué.
Est-ce qu'au départ, alors, c'est là que je vais en arriver, est-ce qu'au départ, lorsque le jazz naît, est-ce qu'on pouvait dire que c'était une musique ethnique?
Et même là. Oui, mais alors attends, je réponds et j'essaie de plus synthétique possible. D'abord, au moment de la naissance, c'est un hybride. C'est-à-dire que si c'est une musique ethnique, c'est-à-dire, et c'est souvent ce que je dis parce que c'est une nuance que je trouve rarement chez ceux qui ont travaillé autour de ces musiques-là en France, qui par exemple essaye de dire, il y a autant d'éléments noirs que d'éléments blancs à la naissance de ces musiques-là, puisque peut-être que le blues, d'accord, qui est encore lui-même, et puis peut-être que les gospels, mais en même temps ça vient des hymnes chrétiens, donc c'est pas très africain tout ça, et puis leur manière, bon, bref, l'appel et réponse, mais on trouvait ça aussi dans les cantiques antiphoniques en Écosse, donc qu'est-ce qui est véritablement africain dans l'histoire? Bon, très bien. Alors on peut s'amuser pendant 107 ans à essayer de départager qui a fait quoi avec, bon voilà, la chose que je sais, c'est que ceux qui ont eu l'idée de produire ce mélange étaient les Afro-Américains. Voilà. Alors, ils ont produit un mélange avec des éléments musicaux plus ou moins conservés et de toute façon transformés venus d'Afrique, avec d'autres également transformés, jamais laissés intacts ou à l'identique, venus d'Europe. C'est eux qui ont produit ce mélange, qui a pris et qui a séduit ensuite des musiciens blancs ou des poètes blancs comme les beatniks dont on parlait tout à l'heure. Bien. Donc première chose. Maintenant pour répondre à ta première question qui est peut-être encore plus importante. D'abord c'est un hybride. De deux choses l'une. Soit c'est un hybride qui se sécularise, comme tout. et parce qu'on passe notre temps à oublier ça, donc après il faut recommencer des débats sur l'identité nationale, oui, mais parce qu'on a oublié qu'être français c'était aussi un sacré bordel au départ, mais c'est un bordel qui s'est stabilisé, donc on finit par croire que c'est une identité éternelle et transhistorique. Non. Voilà, donc il faut sans arrêt rappeler que les choses sont en construction. Parce qu'en fait, il y a deux mentalités possibles, on va dire. Ceux qui passent leur temps à oublier que les choses sont en construction et qui préfèrent une forme de sécurité comme si tout dans la vie n'était pas changement, vie et mort d'ailleurs. Et puis ceux qui ont au contraire conscience que tout est en devenir. Pour le jazz, c'est pareil. C'était un hybride à l'origine. S'il est encore vivant aujourd'hui, c'est que c'est encore un hybride aux mains de différentes populations. Maintenant, pour ta question, et je réponds à ça parce que c'est très important, musique ethnique, aujourd'hui, 2015, ou 65 au moment de la création de l'ASM, je dirais simplement ceci. Oh, j'ai l'impression de parler comme un politicien, c'est horrible. Excusez-moi, je dirais simplement ceci.
Mais deux points. Ça fait un bout de temps que tu parles comme un politicien.
Ouais, c'est ça, merde. Donc, on retrouve l'entre-deux et la double conscience. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire, et c'est là où je suis en désaccord avec certains auteurs, évidemment, mais c'est pas que des auteurs, est-ce qu'on peut dire que cette musique n'est plus afro-américaine parce qu'elle est jouée par tout le monde, et réinventée par tout le monde ? Oui et non. Est-ce qu'on peut dire que cette musique est devenue internationale et donc universelle ? Oui et non. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, et ça ne peut être que ça d'ailleurs, une musique qui est à la fois celle d'une communauté et plus que ça ou moins que ça.
Alors, Alexandre Pierpont, tu considères Gershwin comme un musicien de jazz ?
Toi, tu me poses la question un peu comme un présentateur télé.
Ah, mais j'y vais absolument. Tu auras trop pris en sortant.
Je dirais pourquoi pas.
Ah voilà, oui.
Non, mais je veux dire, je considère, si tu veux parler de musicien blanc, je considère Lenny Tristano, par exemple, hein, ou Charlie Haddon, ou d'autres d'aujourd'hui, hein, j'en pourrais prendre Rob Mazurek pour parler d'un contemporain, un musicien blanc de Chicago, qui n'est donc pas membre de la ACM, mais qui joue avec eux, donc pour prendre des gens à différentes étapes, hein, et à différentes époques. Je les considère tous comme d'authentiques musiciens de jazz, bien sûr.
D'accord.
Gershwin, il y a plus une ambiguïté parce que c'est le moment où l'Amérique blanche, comme en Europe, la même chose se produira. Donc formée au music hall, au vaudeville, à l'opéra ou l'opérette, etc., s'intéressent à cette nouvelle musique syncopée et créent leur propre émulsion. Voilà. Et je n'y vois aucun mal et même plutôt des réussites. Donc moi, je ne serais pas contre.
Comment il est considéré, tiens, Gershwin, par rapport à ces gens-là ?
Aujourd'hui ?
Oui, comme ça.
Oui, il fait partie du répertoire.
Classique.
Mais ça fait longtemps d'ailleurs. Hein, déjà à l'époque de Miles Davis, quand il reprend Porgy and Bess et compagnie. Hein, c'est un musicien respecté.
Bon, on aurait pu se dire plein de choses. C'est quand même un livre de 400 pages, non ?
Oui, il a l'air de rien. Mais je voudrais dire juste un truc. Terminer. Mais parce que c'était utile de le faire comme ça. Ça me changeait même. On a fait plein on a ventousé à plein d'endroits. Et on est remonté, y compris dans ces dernières minutes, on a remonté le fil de l'histoire. Moi, et par rapport aux éditeurs, ce livre-là, à travers l'histoire et l'ethnologie d'une organisation de musiciens contemporaine de Chicago, donc de ces 50 dernières années, c'est aussi une manière de relire toute cette histoire, et notamment l'histoire contemporaine. Et ça, je voudrais dire quelque chose, et c'était peut-être aussi, ça faisait peut-être partie de l'objet de notre toute première conversation sur le rôle des intellectuels aujourd'hui. On connaît mal l'histoire contemporaine du jazz. Et alors là, que celles et ceux, on ne va pas oublier les éléments féminins ni Roland Barthes, qui nous écoutent ne se trompent pas. Comme ils disent aux États-Unis, make no mistake. J'adore quand ils font ça. Les amateurs, donc ceux qui n'y connaissent rien, très bien, tant mieux pour elles et pour eux. Ils ont tout à découvrir, c'est toujours une position formidable. Les amateurs de jazz, quant à eux, connaissent très bien finalement l'histoire des origines jusqu'aux années 60 et assez mal au-delà. Hein, y a ce truc qui s'appelle le free jazz qui apparaît dans les années 60 et puis ça part en vrille et puis ça devient de mauvais goût carrément avec le jazz rock dans les années 70. Et puis on perd le fil. Voilà. Alors, si vous souhaitez savoir, à travers une organisation qui ne récapitule pas tout non plus, mais qui est quand même très représentative des directions prises par cette musique depuis 50 ans, si vous voulez savoir effectivement ce qui s'est fait au-delà de John Coltrane et d'Ornette Coleman ou d'Albert Heller, dans ces directions-là, voilà, la ACM, pas simplement mon livre, les musiques et les musiciens de la ACM en sont d'excellents exemples.
Tu as en ta possession Swing de Gaston Criel, c'est trouvable ou pas ça?
Non, je l'ai pas. Voilà, je l'ai lu. C'est comme le Pont de l'épée. Ouais, que
c'est ce
tu
que
as
je pense aussi.
Aujourd'hui.
Moi, je te conseille ce livre là de la fille de Joe Albany, ami Joe Albany là, sous édition du Nouvel Attila.
Oui.
Peut-être que tu en apprendras beaucoup.
Ah oui, ça je vais me renseigner.
Sur le côté Destroy du personnage, d'une tradition Destroy. Ça, effectivement, j'ai vu ton œil jaloux tout à l'heure et convoiteur.
Malheureusement, tu l'as déjà récupéré.
Le pont. Je suis pas fou. Le Pont de l'épée, Jazz, préface de Louis Armstrong. Hein, il y a un très très beau texte. Attends, je vais si j'ai le temps de. On a le temps. Sur Bessie Smith. Mm. La balade de Bessie Smith, ça t'inspire quelque chose, non?
Non.
Voilà, il y a un très très beau. Très beau texte, je l'ai perdu bien. Ah ouais, ouais, voilà, on va le retrouver. André Benedetto, ça dit quelque chose?
Oui, ça oui.
André Benedetto,
là, non.
Voilà, voilà. Si prenez un billet de train, allez voir Verlaine. Voilà, là, à Mons, exposition assez curieuse.
Faites attention de ne pas être hypnotisé.
Faut faire attention. Puis Alexandre Pierpont, la nuée, la CM, un jeu de société musicale, édition parenthèse. Voilà Alexandre.
Ben, merci à toi.
Ah, merci à toi, c'était un plaisir. Miss Monique, merci Monique.
Parti ce matin même, encore sous de la nuit, mais pris comme des cœurements suprêmes, crachant mes adieux à Paris. Et me voici, ma bonne femme, oui, foutu comme quatre sous, mon linge est sale aussi. Mon âme, et me voilà chez nous. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, ton mauvais gars arrive au bon moment. Voici ce linge goûte à maintes et maintes fois un vin amer où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Si mon âme plus grise, les mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise gris, rose et lilas. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, ton mauvais gars arrive. Du cuvier où l'on sème, parmi l'eau, la cendre du fou, et tout mon linge de bohème repose durant tout un jour. Et qu'enfin mon âme pareille à ce déballage attristant, parmi ton âme, ô bonne vieille, repose un instant. Maman, ton mauvais gars arrive au bon moment. Tout comme le linge confie sa honte à la douceur de l'eau, quand je t'aurai compté ma vie malheureuse d'affreux salaud, ainsi qu'on rince à la fontaine le linge au sortir du cuvier, mère, arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure en dépit de son long sommeil dans la douleur et dans l'ordure revit. Maman, ton mauvais gars arrive au bon moment.
armure ad hoc pour les chers combats et le gai choc, avec si frais que blancs et gras, sortant tout nu, joyeux les deux bras. Suprême, ce mode toujours, c'est toi seul que j'aime, de tous ces atours, fais-toi suprême, ce mode toujours, c'est toi seul que j'aime. Quand elle entre dans le lit, j'ai mieux encore. Sous ma main, le précieux trésor. Sa croupe frémit dans les plis de Baptiste redondant. Vêtement suprême, de mode toujours, c'est toi seul que j'aime, de tous ces atours. Vêtement suprême, de mode toujours, c'est toi seul que j'aime. Elle a pris place à côté de moi. L'humble serre de sa beauté qu'il est divin et mieux mon bonheur. A bousculé le linge et l'honneur. Vêtement suprême, de mode toujours, c'est toi seul que j'aime, de tous ces atours. Vêtement suprême, de mode toujours, c'est toi seul que j'aime, de tous ces atours. Vêtement suprême, de mode toujours, c'est toi seul que j'aime, de tous ces atours. Vêtement suprême, de mode toujours, c'est toi seul que j'aime. Vêtement suprême, de mode toujours, c'est toi seul que j'aime, de tous ces atours. Vêtement suprême, de mode toujours, c'est toi seul que j'aime.
Aimons bien fort jusqu'à la mort. Aimons
amusante, s'il se peut, sois le plus encore et représente-toi bien que c'est la loi d'être pour nous charmer. Et la fleur n'est pas plus faite pour se fermer que vos cœurs et vos sens. Oh nos belles amies, tête en l'air, sens au clair, vos pudeurs endormies, et mon drument. Besoin d'être devin, ni de tirer les tarots pour deviner d'où je viens. Nougaro, et si je compte mes pieds, si je joue les Figaro, c'est pour suivre tes voiliers. Nougaro, quand la pluie fait des claquettes et qu'elle frappe au carreau, j'ai tes chansons dans la tête. Nougaro, Claudie Claude qui se promène en ma chanson Livaro, un soir au bord de la Seine, c'est Nougaro. Pour apaiser mes fringales dans une oreille Aljaro, et dans l'autre tes cigales, Nougaro. Mais tu sais c'est pas facile, au cou j'ai comme un garrot, quand je veux chanter Cécile, Nougaro. Et le soir si je m'obstine à me mettre un peu noireau, c'est pas pour Marie-Christine, Nougaro. C'est pour avoir les atomes bien inspirés et voir haut, fond de mon verre ton fantôme, Nougaro. Devin, ni de tirer les tarots pour deviner d'où je viens, Nougaro. Et si jamais je termine ma vie derrière les barreaux, ce sera en chantant Sing Sing Nougaro, ce sera en chantant Sing Sing Nougaro. Nougaro.